Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Tous, Mathieu Tessier qui est avec nous. C'est parce qu'il y a plein d'S dans son nom, alors ça aussi ça me trouble. Pour sa chronique, la toponymie d'un accentué, il va nous emmener tout à l'heure en voyage aux îles de la Madeleine, mais pour l'instant, on va recevoir Gabriel Lessard, qui est metteur en scène de la pièce de théâtre La Blessure, qui est présentée à l'Espace Libre du 22 mars au 9 avril. Alors on en parle tout de suite après ça, Lisa Leland, qui nous chante « Je ne t'aime plus ».
Je ne t'aime plus.
Alors, nous sommes avec Gabriel Lessard. Bonjour, Gabriel.
Bonjour.
Alors, au nom de mon technicien et au nom de mon chroniqueur qui sont ici, ils vous disent qu'ils vous aiment quand même et moi aussi. Parce que la chanson répétait « Je ne t'aime plus » sans arrêt et ils commençaient à en avoir marre.
Ah, c'est ça qu'elle disait dans la chanson. Je n'avais pas entendu ça.
Ben oui, j'ai le prénom personnel.
Non.
Alors, parlons un petit peu de cette pièce de théâtre « La blessure ».
Oui.
Donc, la blessure, ça va. Je vous laisse faire le pitch.
D'accord.
De cette histoire.
Vous me laissez plonger comme ça, là.
Oui, parce que j'aime ça. C'est dans la mise en danger qu'on se rend compte du talent qu'on a.
Ben, je vais commencer par, dans le fond, j'avais dit que le synopsis, c'est une pièce qui se déroule sur un espace-temps quand même assez limité. C'est une crise qui commence à 10 heures le matin, au moment où Anne, une jeune mère de famille, une trentenaire, diagnostiquée avec un cancer curable du sein, se sauve de son premier traitement de chimio et rentre à la maison. Suivie en panique par sa copine qui se demande qu'est-ce qui s'est passé et qui essaie de doucement la
ramener à ce qu'elle pense être de plus juste, voilà.
Et elle se fait répondre de façon assez drastique par Anne, le personnage principal, qu'elle n'y retournera pas. Parce que Anne, qui est une journaliste très renseignée, mais aussi très anxieuse et qui souffre d'éco-anxiété, le sujet dont je voulais traiter à travers cette métaphore qu'est le traitement du cancer et de tout ça, eh bien, elle lui répond de façon tellement drastique qu'elle ne retournera pas se faire soigner par le même système pourri qui l'a rendu malade. Et elle décide de faire un genre de vendetta contre les pharmaceutiques, contre le système capitaliste et contre le monde entier en disant « Je vais prendre mon cancer comme un champ de bataille. » Là, évidemment, tout le monde se mobilise autour d'elle, l'entourage, les amis, la famille, pour essayer de la convaincre. Et là, c'est là que ça s'affronte, parce qu'on est en cellule de crise. Puis on se rend compte que chacun, dans le fond, c'est une métaphore de notre incapacité à réagir, dans le fond, devant la crise. Cette crise commune qui nous menace tous, le réchauffement climatique, eh bien, chacun se polarise dans cette crise-là, dans sa propre anxiété. Chaque personnage, en fond, on voit qu'ils ont leur façon de fonctionner, leur façon de penser, puis ça s'entrechoque quand il y a une crise. Là, la suite de la chimiothérapie, puis ben ça devient un peu un gros n'importe quoi, où finalement, on parle même plus du cancer. On se
En même temps, ça montre aussi à quel point... enfin, je sais pas, je vais aller voir, donc j'en reparlerai après, mais à quel point on ne s'écoute pas.
Exactement.
Les uns les autres. C'est incroyable comme on peut arriver à se disputer parce qu'on a une idée dans la tête, alors que c'est juste écoute-moi, j'ai pas spécialement raison, j'ai pas spécialement tort, mais écoute ce que j'ai à te dire. Écoute mon besoin.
Polarisation, puis pourtant l'enjeu qui nous guette, il est commun, on risque tous d'y passer. Oui. Puis on se polarise chacun dans nos campements qui, dans le fond, sont des protections contre notre propre sentiment d'impuissance qui se traduit par une anxiété qui, à la place de comme OK. Me voici, je suis un être humain vulnérable, ben, on se protège, on se met des carapaces et on s'attaque les uns les autres.
Oui.
Puis il y a beaucoup la notion de responsabilité individuelle aussi. Anne, la personnage principale, est la pro de la responsabilité individuelle. Elle, tout ce qu'elle fait est calculé. Elle sait tout ce qu'elle mange, porte, fait, respire et passer à travers un filtre en émission carbone. Puis elle va comme attaquer son entourage avec les connaissances qu'elle a. Mais mais ce qu'elle fait, dans le fond, c'est qu'elle ne va pas aider les gens à se rallier à sa cause. Elle va complètement leur faire peur.
C'est là où il y a des coupures et c'est là où on court le risque qui est beaucoup plus grave que ça, parce qu'en fait la pièce elle est plutôt drôle, elle est tournée en dérision, mais en fait on court ce risque-là, c'est-à-dire de couper le lien.
Oui,
c'est hyper important, donc c'est une pièce aussi qui crie, enfin en tout cas il me semble, moi c'est comme ça que je le prends en lisant dessus, attention. Attention, écoutons-nous, ne coupons pas le lien. Personne n'a tort, personne n'a vraiment raison. Chacun le voit par rapport à la vie qu'il a menée et par rapport à ses conceptions de la vie, donc c'est difficile. C'était pas facile de faire d'écrire une pièce comme ça, bravo. Enfin, j'en sais rien, moi.
C'est très agréable, par exemple, parce que j'ai comme, quand j'ai trouvé la métaphore justement du cancer puis du refus de se soigner, j'ai comme trouvé une porte d'entrée où je pouvais comme insérer une démesure. Parce que je trouve ça intéressant ce que vous venez de dire de c'est drôle la pièce. Parce que moi, quand je l'ai écrit, je trouvais pas ça drôle. C'est drôle parce qu'elle offre un genre de recul instantané sur, je nous appelle nous les dindons, les 9 milliards de dindons qui sont en train de rentrer dans le mur, puis à la place de comme faire fuck un mur, on est en train de rentrer dedans, ben on fait la guerre, on crée des chars électriques, on s'achète des iPhones, on fait la fête, Fait que moi je trouve pas ça drôle, mais le recul qu'amène la pièce sur notre démesure et notre incapacité qui rase à juste même se poser de faire oh, on est dans l'arbre, on est dans le mur, c'est drôle, mais parce que
c'est juste
un recul qu'on prend sur notre propre...
Quand j'ai lu ça, parce que je ne l'ai pas encore vu, donc je répète, quand j'ai lu ça, je me suis dit que des fois, quand il y a des vérités qui viennent nous faire face ou des questionnements auxquels on ne sait pas répondre, peut-être que la façon de faire, c'est d'en rire pour pour sortir de cette espèce de, tu sais, cette espèce de questionnement de pas savoir. Donc on en rit et rire, ça éclate, ça fait tomber l'ego.
Puis là, tu peux comme te questionner, puis sans te sentir attaqué ou moraliser, la pièce n'est pas moralisatrice.
C'est ça pour éviter... Ah, pardon, tu voulais
parler? Non, j'allais juste me demander à quel moment vous vous êtes rendu compte que la pièce était drôle. C'est quand vous avez commencé à la pratiquer?
C'est moi qui ai dit drôle. Oui, elle ne l'a pas écrit.
Oui, quand elle l'a écrit, elle ne la trouvait pas drôle. Mais
je ne savais pas que c'était pas drôle, mais c'est quand on l'a présenté une première fois ou jamais lu en janvier.
Oui.
2020. Puis ça hurlait de rire dans ça, c'est comme c'est pas drôle.
Mais j'ai remarqué que souvent, dans des moments d'émotion, sur des pièces de théâtre, autres, hein, je parle pas spécialement de celle-ci, le public, quand il est touché, quand il sait pas comment réagir, sa première réaction est de rire.
Oui, ouais. Mm-hmm.
Donc c'est peut-être ce qui s'est passé pour la vôtre, pour votre lecture.
Oui, certainement qu'il y a une démesure aussi qui en est drôle, grotesque, parce qu'elle n'a pas de bon sens. Tu sais, puis comme je vous dis, elle sauve de sa chimio.
Oui.
Là, on parle d'un cancer, mais
oui.
Mettons, la pièce d'une heure et vingt, mais on doit parler du cancer 10 minutes sur l'heure et vingt. Le reste du temps, là, on s'obstine sur des niaiseries qui n'ont pas rapport, comme est-ce que oui ou non elle a été anorexique à l'adolescence. Il y a une grosse prise de bec entre elle et sa sœur. « Oui, j'étais anorexique. Non, je n'étais pas anorexique. Tu ne mangeais pas. Oui, je mangeais. » Là, ils finissent en chicanant sur c'est qui que maman trouve la meilleure. Mais tu sais, on parle du cancer 10 minutes sur une heure et vingt, comme un peu en ce moment. On parle de la crise climatique, alors qu'un gros rapport du GIEC vient de sortir qui dit qu'on va comme tout y passer parce que la dernière porte d'action est en train de se refermer.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait? Une guerre en Ukraine.
Là,
on parle de la COVID, on parle de tout. Ben, on est comme, OK, mais on n'en parle pas.
Oui.
Sauf de ce qu'il faut, puis sauf de ce qui nous relie tous.
Oui, voilà.
Il y a une chose qui nous relie tous en ce moment, c'est notre vulnérabilité, notre mortalité et ce danger de cette planète qui est minuscule. Puis on parle de tout sauf de ça.
Je sais.
Mais c'est la même chose en pièce. On parle presque pas du cancer. On
Je
parle
suis complètement
de...
d'accord avec ça, sauf que tant que... S'il faut en passer par là, eh ben, on sera plus là. Mais c'est dommage qu'on se relève
dommage,
pas assez vite.
Mais...
On va faire une petite pause. On va faire une petite pause chanson, puis on revient tout de suite après. D'accord?
D'accord.
À tout de suite. Alors, on part avec Caracol et Height Classyfield qui nous chantent Tout est différent.
Le nouveau Acura RDX 2022. Tout est dit.
Je l'ai laissé en plan, pleurer dans le taxi, long ride jusqu'à la maison. Je fixais ton soleil depuis trop longtemps. Maintenant je vois plus qu'un point, y'a pas d'illusion. Le matin est pâle comme un glaçon, les mots que je lance touchent le fond. Et t'attendons éternellement, sédiments au fond de l'océan. Je pense à toi, je pense aux décisions, je vois pas plus loin que l'horizon. J'imagine tes déclinaisons. Tout est différent, tout est dit, tout est différent. Tout est différent, tout est dit, tout est différent. Tout est différent, tout est dit, tout est différent. Tout est différent, différent, différent. Mais tout est différent, tout est dit, tout est différent. Tout est différent, tout est dit, tout est différent. Tout est différent, tout est dit, tout est différent. Tout est différent, différent, mais...
Alors, on se retrouve avec Gabriel et Sarah. Gabriel?
J'ai un meilleur coup de pas à faire.
Allô? Gabriel, oui. Gabriel, les garçons ont décidé de faire plein de bêtises dans le studio. Il y en a un qui nous a pas coupé la chanson comme il faut. Je le nommerai pas, Mathieu. Et voilà. Donc on est parti avec un début de pub. Désolé pour ça, qui n'avait rien à voir avec la discussion que nous avions. Donc maintenant qu'ils se sont bien fait saquer, on va continuer.
Ah, ok, parfait. Mais on continue.
Oui, on continue. Alors, sur cette scène, il y a 5 femmes, c'est ça?
Oui, oui.
5 femmes, on dit, séparées par les classes sociales et par leur génération.
Ouais.
Des fois, je me dis que quand j'entends des jeunes gens qui ont 12 ans, 14 ans, 15 ans, ils disent des choses tellement intelligente par rapport à certains autres. Donc des fois, j'aurais plus envie, plutôt que d'écouter la voix de la sagesse, celle qui a vieilli, d'écouter la voix de la jeunesse, celle qui arrive.
Mm-hmm.
Voilà. Donc qu'est-ce que c'était quand on parle de la différence des classes sociales et des générations? Est-ce que quand on est malade et qu'on refuse d'être soigné, il y a des différences qui se voient là-dedans parce qu'on a une différence d'âge ou une différence de classe sociale? Non, quand on est malade, on est tous pareils devant la maladie?
C'est pas tant par rapport à la maladie que par rapport à comment chacun s'est... Tu sais, je parlais que chacun s'est comme un peu emmuré dans des idéologies qui leur permettent de faire fi de leur impuissance face à leur vulnérabilité. Fait que c'est plus comme, tu sais, maintenant la sœur du personnage principal... Elle décide d'être avocate. Elle est du côté, elle y défend les pharmaceutiques. Elle y défend le gouvernement et toutes ces affaires-là. Puis elle est plus dans le... Elle accepte le système duquel elle fait partie puis elle décide de se mettre du côté des gagnants parce qu'elle dit « j'ai le choix ». Puis du côté des perdants, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, moi, gorger ma vie puis je pourrais même pas aider parce que le système est plus fort que l'humain. Fait qu'elle, elle défend ça de façon super froide face à sa sœur qui, elle, gâche sa vie, en fait, qui crache sur sa famille, crache sur ce qu'elle a de beau parce que elle voit tous les chiffres qui se cachent derrière ses privilèges, donc qui décide de gâcher ça. Fait que c'est là, c'est plus face à notre impuissance puis à notre comment chacun s'en protège. Puis la mère de cette fille-là, elle, c'est comment elle a voulu transmettre à ses filles. Dans le fond, elle aussi, c'est chacun comment elle transmet l'angoisse à l'autre. Puis elle, son angoisse, dans le fond, elle a décidé de faire comme si rien n'était. C'est une génération de 64 ans, la mère.
Oui.
Puis elle est comme, ah, mais elle a décidé de comme juste vivre et laisser vivre. Puis là, ça répète d'en face parce que ces filles sont méga anxieuses. Parce qu'elles sont comme, ben là, on peut pas juste laisser vivre parce qu'il faut contrôler les affaires. Sinon, une pète d'en face. Fait que, tu sais, c'est plus comment chacun se protéger de sa vulnérabilité qu'il y a des clashs.
Oui.
Ça par rapport à la maladie. La maladie est vraiment juste le...
Le déclencheur de la discussion.
Le prétexte.
Oui.
Donc, ça ressemble à un mélange d'anxiété et de réalisme aussi. Là, parce que si on fait juste... dire « Ah oh, non, on laisse faire, évidemment, on va arriver au mur assez rapidement. »
En même temps, si y aurait une chose toute simple à faire, hein, c'est pour les guerres comme pour le reste, c'est dire « Non, j'y vais pas. »
Oui.
Si tout le monde fait ça, on peut pas obliger. Il n'y a plus la guerre, il y a plein de choses qui n'existent plus, qui nous forcent à faire. Il suffit, c'est pas si simple que ça, mais il suffit qu'ensemble on dise « Non. »
Non, c'est ça. Là, je ne vendrai pas le punch de la pièce, mais ça a beaucoup rapport à comment la pièce finit aussi. Il n'y a pas de conclusion avec une grande solution, mais il y a beaucoup un genre de... C'est comme si on ouvrait la lumière puis on faisait « ben là ». Puis la pièce, en tout cas, parce que je ne peux pas vendre le punch, mais comment vous...
Non.
Ça a beaucoup rapport.
Ouais. D'accord. Ben alors, tant mieux. Ça donne très envie de d'y aller et puis de la voir sur scène. Est-ce que ça vous a fait beaucoup de bien?
De bien?
Eh ben ça vous a fait beaucoup de bien d'avoir écrit ça et puis de pouvoir le voir jouer sur scène?
Ah oui, ben c'est sûr qu'on a encore... Je vais vous avouer qu'avec les nouveaux contextes de COVID, j'espère faire la première, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous popper dans la face, mais c'est très satisfaisant de recommencer à faire de l'art vivant et tout ça, mais les conditions sont vraiment dures en ce moment de création à cause des arrêts, reprises. Ça met beaucoup de pression sur les créateurs parce que nous, on travaille dans des conditions déjà très difficiles avec des moyens financiers très limités. Fait que de toujours être obligé d'arrêter, recommencer, arrêter, recommencer. Puis là, il faut tout bouger nos horaires. Les actrices, comme depuis 3 semaines, m'appartiennent carrément parce qu'il a fallu comme loger 110 heures de répétition en 3 semaines. Donc, elles, ça leur permet. Puis tu sais, on n'est pas financé à hauteur de ce qu'on a besoin. Donc, elles doivent, tu sais, elles peuvent pas partir des auditions pour aller chercher des contrats complémentaires. Fait que ça met beaucoup de pression sur les individus. Fait qu'on est content de faire du théâtre, mais en même temps, on ne pourra pas continuer à faire de la des arts vivants dans des conditions aussi incertaines, puis en mettant toujours de plus en plus de pression sur les humains. Fait que oui, je suis contente, mais je suis consciente aussi du coût qui vient avec ça, puis qui est payé par le dévouement de mes collaborateurs en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
En même temps, ça tombe bien, puisque quand on va ouvrir pour aller voir la blessure... quand ça commence, c'est le moment où on peut être, où le théâtre peut être à plein.
Ah oh oui, oui.
Donc
oui,
déjà, joie, bonheur, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être 5 dans la salle. Enfin, 5, j'exagère, mais...
Non, mais à peine. Oui. C'est une salle, surtout ici, à l'espace, c'est des bancs. Donc, tu sais, il faut espacer les banquettes, puis ça, il faut en laisser libre, c'est que ça donne des audiences.
Oui, ben là maintenant, on a la possibilité d'être les uns à côté des autres. Donc, tout va bien.
Mm-hmm.
Déjà,
oui,
il y a non, ce... Ouais. Il y a ce côté-là qui est plus revalorisant. Et puis bientôt, quand on pourra se voir la face, on pourra aussi voir les sourires, les gens, comment ils réagissent à ça. Et puis, il y a plein de promesses parce qu'on en a besoin. Le public a besoin de revenir en salle et d'être... Alors, un petit dernier mot, qu'est-ce que vous diriez au public à venir pour les inciter à venir, pour les inciter encore plus que ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant?
Ben ça fait vraiment, tu sais, avec tout ce qui s'est passé avec la COVID, là, les antivax, ces affaires-là, je trouve que ça met vraiment aussi une genre de lumière sensible sur la détresse qu'il y a derrière les différents discours, même s'ils correspondent pas à notre système de valeurs. Ben c'est beau de voir aussi qu'il y a des sensibilités puis des anxiétés qui sont derrière ces discours-là très polarisés puis tranchés, puis que c'est juste une façon que les gens ont trouvé de se protéger plus souvent.
Ben chacun se protège comme il peut, et on voit bien à travers cette écriture et à travers ce que vous en faites que personne n'a tout à fait raison et personne n'a tout à fait tort. Il y a tellement de nuances.
Ça ramène un peu d'humanité et d'amour derrière la polarisation des débats.
Et de s'écouter.
Oui, et de s'écouter.
De
surtout.
Parler,
Tu me parles, je t'écoute, c'est pas parle et puis je pense à autre chose. Merci beaucoup, Gabrielle et Sarah, beaucoup. Et puis, c'était très intéressant. Et
génial.
Puis, je suis très contente d'aller voir ça.
Oui, j'ai hâte de vous voir.
La prochaine. Donc... Bonne continuation à vous.
Merci.
Plein de bonnes choses.
Vous risquez de l'entendre rire dans la salle.
Au revoir. Au rire, c'est pas sûr, mais peut-être discuter après, oui. Au revoir.
Au plaisir. Bye bye.
Alors là, on va écouter Pongo qui nous. Pongo, c'est pas le nom du chien des 101 Dalmatiens. Il s'appelait pas. Vous j'essaye de réveiller vos mémoires de jeunes gens qui ne connaissent pas. Enfin bref, Pongo qui nous chante Doudou. Et Doudou, je crois que ça veut dire chéri en créole. Voilà, maintenant que j'ai bien étalé ma culture, on peut faire partir la chanson.
On y bouge bien.
Alors, restez avec nous, parce que là, dans la prochaine demi-heure, c'est Mathieu Tessier qui va nous emmener aux îles de la Madeleine.
Tout à fait.
Oh, un beau voyage, je l'espère, Mathieu.
J'espère pour nous tous.
Oh, comme ça va être bon. Allez, à tout de suite. Nicolas me regarde d'un air interrogateur. C'est bon, Nicolas, on y va. À tout de suite.
Les Faramineux avec Arlette Farah.
À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? J'étais peinard, pas le goût de mettre un pied dehors. Quand t'as téléphoné, j'étais déjà plutôt sonné. Et pas trop tard, trop tard pour se virer de bord. On pourrait foutre la merde, sortir les squelettes du placard. Aller s'accrocher quelque part de l'autre côté. Enfin libéré de la gravité, de la société. À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? J'ai le ramassé avant de regretter ce que j'aurais pu changer. Paraît que le monde est ce qu'on en fait foutu. Je te le répète en français, dis-moi ce qu'il faut faire pendant qu'on est là sur terre pour être un peu moins fonctionnel et un peu plus humanitaire. J'ai dû faire la fête, d'être à moitié honnête. Si tu pars dessus tête que je la traverserai la tempête. À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? Ça sert. Je veux que ça juste se taire. Autant s'y faire. Ou quitter la terre. Qu'est-ce qu'on va faire avant de tourner en poussière? Guitar. Un million d'années, je peux pas m'empêcher de me demander si tout ça va changer. Avec ma guitare, même désaccordée, il sera peut-être trop tard, mais au moins on aura chanté. À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre si on peut même pas virer le monde à l'envers? À quoi ça sert d'être sur la terre? Même pas virer le monde à l'envers.
J'ai arrêté avant.
Alors, on vient d'entendre les respectables qui nous chantaient « Virer le monde à l'envers ».
C'était une très bonne idée, ça, Arlette. Sortons d'ici.
Ouais. Allons-nous promener aux îles de la Madeleine. C'était ça que tu me proposais, que tu nous proposais, parce qu'on part tous
ensemble. C'est en partie une raison de cette chronique d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je vous amène aux îles de la Madeleine. Et quand j'étais plus jeune, je disais à l'île de la Madeleine.
Il n'y a pas si longtemps que ça.
Il n'y a pas si longtemps, merci, tu es fort, fort aimable, mais menteuse, mais c'est pas grave. En fait, il faut réaliser que ce sont les îles de la Madeleine parce que c'est un archipel. C'est composé de plusieurs îles. Une densité, c'est la première fois que j'utilise ce terme-là. Il y a 61 habitants au kilomètre carré. C'est quand même beaucoup de monde. Bon, ça représente en fait 12 475 Madelinos et Madeliniennes. Les îles, quelles sont-elles? Nous avons l'île aux loups, la grosse île, la pointe de l'Est, que certains appellent l'île de l'Est, l'île du Havre-Aubert, l'île du Havre-aux-Maisons, l'île du Cap-aux-Meules, l'île de la Grande-Entrée, l'île Brion, les rochers aux oiseaux, l'île du Corps-Mort et l'île d'Entrée. Et c'est d'ailleurs sur l'île d'Entrée qu'on trouve le point culminant de l'archipel qui se situe à 174 mètres de hauteur.
D'accord.
Mais aujourd'hui, j'ai pensé vous amener aux îles de la Madeleine parce que j'ai pensé à un nouveau segment pour ma chronique « La toponymie d'un accentueux ». C'est-à-dire que j'aimerais vous parler aussi, non seulement des surnoms, des endroits que l'on visite, mais des mythes, légendes et créatures fantastiques que l'on peut retrouver dans chacune des destinations. Il faut savoir que l'île a porté plusieurs noms au cours de son histoire. Jacques Cartier l'avait appelée Arène, qui est un dérivé de arena, donc sable, Menagoé Senog, excusez-moi les gens de l'île pour ma prononciation probablement douteuse, c'est une appellation qui veut dire île battue par les vagues ou par le ressac. Je vais me calmer. Aujourd'hui, pour parler des créatures de l'île de la Madeleine, je me suis servi largement d'un livre qui s'appelle « Les créatures fantastiques du Québec » qui a été écrit par Brian Perrault et Alexandre Girard, qui a été publié au Trécarré en 2007. Et aujourd'hui, je vais commencer avec la légende de la butte du Noir.
Aha.
Les habitants du Havre, de l'île du Havre aux Maisons, ont découvert un matin un étranger à la peau noire échoué sur l'une des grandes plages. Étrange. Le mort, en fait, avait toutes les allures d'un sorcier africain. Outre les tatouages, son corps arborait aussi de nombreuses scarifications. Wow. On a d'abord cru que c'était un esclave échappé des États-Unis. Mais les pêcheurs et les plus vieux ont dit « Non, ça c'est un sorcier vaudou qui vient des grandes îles du Sud. » Évidemment, le curé avait une autre opinion sur le sujet. Après s'être signé, il a évidemment déclaré que cet être était un démon. Bon. En fin de compte, les pêcheurs ont décidé d'offrir au malheureux, qui était vraisemblablement mort d'une noyade, une sépulture décente sur une colline non loin de la côte. Après avoir pris soin de recouvrir le corps d'une butte de terre compacté, donc capable de résister aux intempéries, ils ont prononcé quelques mots en guise d'oraison, puis ils ont retourné à leurs activités régulières. Mais deux semaines après les funérailles, alors qu'on avait presque oublié l'histoire du noyé, la butte du noir, s'enflamma. Puis l'étrange phénomène s'est reproduit pendant 3 ans à tous les jours. Donc, toutes les nuits, de minuit à 1 heure du matin, la butte s'embrasait subitement et brûlait jusqu'aux petites heures du matin. Sans savoir pourquoi, on avait remarqué qu'autour de la sépulture, la terre devenait très chaude, chaude comme un volcan, on disait. Puis la butte, partant en fumée, s'enflammait soudainement. Les scientifiques ont alors émis une explication qui disait sans doute qu'ils ont touché une source de gaz naturel lorsqu'ils ont creusé leur trou. Mais bien sûr que cette hypothèse n'a pas plu à tout le monde. Devant le mystère, il ne restait qu'une seule chose à faire, déterrer le cadavre pour voir ce qu'il était advenu de ce pauvre homme.
Et alors?
Et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que le corps n'avait pas changé. Il ne s'était nullement dégradé depuis...
Ah bon?
Depuis 3 ans. Et au contraire, ils ont même commencé à...
a trouvé qu'il avait repris...
Mais en fait, tu sais, il disait que la peau est encore souple et il n'y avait aucun asticot qui avait commencé à manger le corps.
Ah,
il était tel quel qu'on l'avait découvert sur la plage. Et dans l'esprit des Madelinots, il était donc clair que c'est le curé qui avait eu raison. Et donc, c'était un démon. Et qu'est-ce qu'on fait avec un démon? Eh bien, il faut le chasser le plus loin possible de la paroisse. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le corps, ils l'ont mis sur une goélette qui est allée très loin des zones de pêche et des îles. Ils ont laissé le corps aller dans les profondeurs de l'océan parce qu'ils ne connaissaient pas non plus l'étendue des pouvoirs surnaturels de cet homme. Mais la butte a continué à faire parler d'elle.
Elle continue à brûler?
Non, elle n'a pas continué à brûler. Bien que le trou, bien qu'on a rempli le trou de grosses pierres et qu'on a remis de la terre neuve, encore aujourd'hui, certains automobilistes passant sur la route ou en cheminant sur la route qui mène jusqu'à l'île du Cap aux Meules, lorsqu'elle passe à proximité où se trouvait la butte, en fait, ils ont ou subissent certaines avaries mécaniques très graves. Et ils ont remarqué aussi qu'aucun animal, aucun animal, n'allait ou s'approchait en fait de la butte. Parce que, comme le dit si bien le livre,
comme
chacun
si
sait très bien que... Oui, puis comme disait le livre, chacun sait que les animaux, pardon, perçoivent probablement mieux que les humains les pouvoirs maléfiques toujours inexpliqués de ces endroits.
C'est sûr.
Alors, c'était la butte au noir qu'on retrouve... aux îles de la Madeleine. Donc, c'est ce que je voulais faire au fur et à mesure que je vais vous parler de destination. Si je trouve des mythes ou des créatures. Il y en a quelques-unes d'ailleurs au Québec, ce qui est très. C'est un beau filon.
J'aime ça, les contes. C'est chouette.
Oui. Ouais, alors voilà,
c'est super.
Le but au noir.
Eh bien, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Alors, on va partir en musique avec Simple Plan qui nous chante I Just a Kid.
I'm Just a Kid.
I'm just a kid.
Non, ça, c'est pas la même chanson.
On y va.
I woke up, it was 7, waited till 11, just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone? When you're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid, and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that's not fair. Nobody cares, cause I'm alone, and the world is having more fun than me. And maybe when the night is dead, I'll crawl into my bed, staring at these four walls again. I'll try to think about the last time I had a good time. Everyone's got somewhere to go, and they're gonna leave me here on my own. And here it goes. I'm just a kid, and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares, cause I'm alone, and the world is having more fun than me. What the fuck is wrong with me? Don't fit in with anybody. How did this happen to me? Why do I wake up morning, I can't fall asleep, and every night is the worst night. I'm just a kid.
me perds dans
alors, Mathieu se perd, c'est déjà voilà. bien. Donc, merci beaucoup pour le compte. J'ai trouvé ça très intéressant et je suis d'accord pour que tu le
oui,
fasses régulièrement.
Parce qu'il y
a
aussi la légende du nain jaune que je vous parlerai une autre
fois. Une autre fois, alors. Voilà. On en parlera un autre moment. Mais fais des légendes, c'est toujours très intéressant. Enfin, vous nous écrirez pour nous le dire.
Donc, si vous en connaissez aussi de votre coin
oui,
aussi.
C'est ça. Si vous êtes de certaines régions et que vous connaissez des histoires que Mathieu pourrait raconter, eh bien, n'hésitez pas, écrivez-nous, écrivez-moi et puis je transmettrai ça à Mathieu.
Okay? Souvent même dans des villages, on a des croix de chemin, des croix, des croix à la croisée des chemins. Mmh. Et souvent, quand on s'approche des croisées de chemin, il y a des plaques qui parlent de légendes. Propre
oui.
à chaque petit village. Donc voilà, j'en ai fait
une
petite collection.
Ah, c'est super, j'adorerais ça. Ça serait une manière de faire le tour
aussi,
du Québec.
Voilà, après les casse-croûtes, on parle des fêtes, des
voilà.
bêtes fantastiques.
Alors, on joue?
Oui, on joue. Encore une fois, parce que tu réussis de mieux en mieux.
Oui. Alors là, tu vas chercher à me piéger.
Exact, parce que je suis parmi des nouvelles expressions, je suis allé en chercher des fois une ou deux. Qui viennent d'une autre chronique, juste pour voir si tu as retenu quelques
D'accord.
leçons. Je les ai changées un peu quand même. Donc, l'expression « Hâle-toi une bûche ». Hâle-toi une bûche. Hâle-toi une bûche.
D'accord.
Il y a une variante.
Repete-le-me-le.
Repete-me-le, tout bidou. Lorsque la situation le permet et que les accessoires sont disponibles, se hâler une bûche est l'acte de déposer ses Gladius Maximus sur ses 10 accessoires disponibles. Et de 1, B, reconduire en digne conducteur désigné sa belle-famille et dire à son beau-père, « Émilien, fourrez votre pipe avec de la taquia et regardez défiler avec moi le courant d'asphalte, puis vous me direz par où passer parce que je suis jamais allé chez vous. » Hall Twin Bush, ou encore, « Peux-tu aller me chercher de l'eau bouillante pour éteindre le four à pizza? »
Bah écoute, là, comme ça, je sais toujours pas, mais je partirai sur la une. C'est ça?
Pauline.
Oui.
Ouais. Oui. T'as probablement déjà entendu « Tire-toi une bûche ».
Oui.
Voilà. Une autre façon de dire, c'est « Hold-toi
une
bûche ».
Tire-toi une bûche, ça oui, mais là...
Hold-toi.
Ouais, d'accord. Je ne vais pas la refaire parce que je n'arriverai pas aussi bien que toi, mais je suis contente, j'ai gagné.
J'aime le Wickahang.
Ah oui, ça, je m'en souviens. Tu l'as déjà fait dans les années passées, mais je ne me souviens plus ce que ça veut dire.
Bon. Je connais absolument rien à la haute couture, mais sur toi, ce sac de vidange orange percé de 3 trous est magnifique, Arlette. J'aime la façon dont tu le portes. On pourrait croire à un Chanel, un Giorgio Armani, un Versace même, ou même un Vuitton. Mieux, Oscar de la Renta. J'aime le Wickahang. Ça veut aussi dire « j'aime conduire », particulièrement lorsque l'asphalte est neuve, que le soleil est à son zénith, qu'il ne fait pas trop chaud, que ma chanson préférée joue à la radio, que ma destination est agréable, que les gens sont polis, que l'essence n'est pas chère et que j'ai congé demain.
Alors, c'est pas aujourd'hui.
Non, c'est pas aujourd'hui. Et j'aime le Wickahang, favoriser un cours en présentiel plutôt qu'un tutoriel sur Internet. Faire des vocalises. Apprendre à gérer son souffle, attaquer les notes graves en chantant des phrases musicales descendantes et pour les notes aiguës, favoriser des phrases musicales en glissade, autrement dit, qui démarrent sur une note plus haute ou de plus en plus haute. Faites cela et peut-être qu'un jour on dira de vous, c'est quoi? J'aime le Wickahang. J'aime sa façon
Alors,
de chanter.
Moi, j'aurais dit la 2. Je suis bonne?
Moi, j'ai aucune idée.
J'aurais
aussi dit
la
2.
Mais non, c'est la 1.
C'est là, j'aime, c'est les vêtements.
J'aime, voilà,
les
j'aime la Wickahang.
Ah oui. La week, oui, la semaine de fashion.
La week, en tout cas. Ça fait penser un peu à hang.
Oui, d'accord. Okay.
J'aime la façon dont ton linge passe sur toi.
D'accord.
T'as perdu trop de poids dans
le. Moi, je l'ai jamais entendu auparavant.
Non, d'accord.
Moi, j'avais déjà entendu, il l'a déjà fait, mais en même temps, l'histoire d'aller sur la route, d'écouter la musique et tout, me plaisait plus.
Oui, c'est toujours un plaisir, ça.
Oui, c'est toujours du bonheur.
Une autre expression, que sont des bottes à douille? Les bottes à douille.
J'ai comme une idée, mais je vais attendre de voir tes réponses.
Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre. J'aime bien cette expression, sont-ce des bottes faites de la peau d'un animal que vous avez vous-même expatrié de son milieu naturel? Ou est-ce des souliers de danse qui sentent la même chose que des bottes à douille, mais sans les stigmates associés à un manque flagrant de coordination vestimentaire? Ou des bottes de polychlorure de vinyle qui empêche la pluie automnale de remonter jusqu'au mollet frileux d'un arpenteur de vigne.
Je penserais plutôt à des bottes de pluie.
Et c'est très bien. Et lequel de ces choix cela représente-t-il? Des bottes de polychlorure de vinyle?
À quoi tu penses, toi?
Il m'a tellement perdu dans ses phrases.
Le polychlorure de vinyle, c'est quoi?
C'est la 3? Ben, c'est la 3, alors.
C'est les bottes qui empêchent les mollets d'un arpenteur de
vinyle.
Ben les bottes à douille.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ben, la 3.
En fait, je pense que ça vient de l'expression des bottes. C'est les bottes que les gens portent quand ils vont à la chasse. Les bottes à douille,
oui.
Les douilles de fusil.
Tu,
voilà. Ben, c'est pas grave.
Tu manges ta... Mais non, mais j'ai trouvé. C'était la troisième que je voulais dire parce que je me semblais pas que les autres, tu parlais de bottes. Mais bon.
Non, effectivement. C'est tout l'art
donc
de ça.
Donc j'avais trouvé, c'était la troisième.
Une autre expression que tu pourrais dire à quelqu'un qui te tombe sur la marboulette, remarquez que je...
Sur les nerfs, tu veux dire?
Aussi, marboulette, c'est une autre expression. Moi, te débabiner. Est-ce faire l'amour discrètement pour la première fois sans dire un mot et surtout sans trop savoir comment? Ou est-ce heurter le visage d'autrui avec vélocité à l'aide d'un membre supérieur dans le but de lui imposer le plus d'embarrassement possible sans se faire souffrance soi-même? Ou est-ce s'introduire discrètement chez quelqu'un et tout déménager sans lui demander, sans lui dire, et après un mois, tout remettre en place et lui laisser un carré aux dattes dans le réfrigérateur?
C'est la 2. Un point dans le nez. Mais non, je veux pas la guerre. Mais bon.
Exact. C'est pour ça que je voulais pas trop donner d'indices en même temps.
Il me semble que ça ressemble à ça quand même.
Ça vient du mot babine, mode débabiné. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas faire appel à la violence.
Non, pas du tout. Pas du tout, puis j'ai pas le bras assez long pour atteindre des babines.
On m'appelait à bras raccourcis quand j'étais jeune, peu importe. Dernière, aller tondre le long avec des bogamots.
Aller tondre le long avec des bagamots.
Oui.
Alors là, j'ai jamais entendu.
Aller, verbe transitif, signifiant se déplacer.
Oui.
Tondre, autre verbe transitif, signifiant couper à ras. Le long, adjectif, qui a une étendue supérieure à la moyenne dans le sens de la longueur, comprendre ici le gazon, avec préposition et adverbe en compagnie de, bon, alors, mais plus correctement, dans le cas qui nous occupe, le fait d'être muni de quelque chose. Aller tondre le long avec des bogamots, on est rendu à D. Article indéfini, pluriel de un ou une. Et bogamots, néologisme dérivé des bottes d'eau, voire bottes à douille. Première explication, je respire. Aller tondre le long avec des bogamots, est-ce que ça veut dire courir sur les rivages d'une rivière peu profonde et dans laquelle coule de l'eau de pète, autrement dit, dans les Laurentides, on appelle ça comme ça, et y ramasser des fleurs sauvages? Non? Ou est-ce mourir, se faire enterrer dans un lot familial organisé en ordre alphabétique et non chronologique, comme ça se fait dans plusieurs régions nordiques, ou du moins au nord du 58e parallèle? Aller tondre le long avec les bogamots. Une chance que j'ai mis ma réponse en caractère grand, parce que je pense que moi-même, je me serais perdu. Eh bien, c'est aller tondre le gazon avec des bottes de pluie.
Ben oui.
En plus, c'est plutôt aller tondre le gazon.
C'est la une.
Oui.
C'était déjà tellement complexe que j'ai vu que Nicolas, il a piqué du nez sur le micro.
Ouais, il s'est endormi.
Il s'est comme endormi. Il est resté au premier mot, puis il cherche encore à le comprendre.
Oui, moi, je t'ai perdu. Là. J'essaie de suivre, puis j'étais encore pas... L'affaire, c'est
après,
que si tu restes pris sur un mot,
oui.
Là, t'entends pas le reste, puis là, t'es comme « Ah non!
» Mais on te pardonne parce que tu es le petit nouveau, le dernier arrivé. Moi, il se trouve que ça fait quand même maintenant un moment que je pratique Mathieu et son langage fleuri. Donc, j'arrive un petit peu plus à passer à travers. Une petite dernière, Mathieu.
Une petite dernière, d'accord.
On a le temps.
Je suis certain que tu vas la connaître. Oui. Dégraille-toi.
Oui, alors ça veut dire choix 1, choix 2, choix 3.
Exact. 1. Enlever avec difficulté la peau de lait en surface de sa tasse de chocolat chaud avant de se rendre compte qu'il s'agit en réalité d'un vieil oreiller. D'accord? B. C'est une phrase familière que l'on entend dans les résidences chauffées au bois d'érable, mais pas uniquement, tandis que l'on nous invite à nous dégrayer, autrement dit, à enlever notre parka. Ou C. Sortir du lit doucement pour ne pas réveiller l'inconnu. Oups, avant de se rendre compte qu'en fait, on est chez soi et que la personne qui ronfle n'est nul autre que notre partenaire de bridge familial.
La 2. Et j'ai bien fini.
Et c'est bien parce que ça, ça n'était une que j'avais déjà fait. Donc, dans ton inconscient, c'était...
Non, non, il faut bien écouter parce qu'il dit, à un moment donné, il donne une bonne réponse au milieu d'un flot de mots. Alors, il faut écouter avec... Je suis très attentive avec toi, Mathieu.
C'est vrai?
Voilà. Enfin, j'essaye en tout cas de l'être en permanence.
C'est enregistré, ça, Nico? Qu'elle est très attentive avec
oui,
moi?
Oui, définitivement.
D'accord. Tu me le referas jouer. Je pense que ça va être mon nouvel alarme de
voilà.
cellulaire.
Je suis très attentive avec toi. Alors, Mathieu, merci beaucoup
ça m'a fait
pour
plaisir.
Ça. On va partir en musique avec une chanson du nouvel album de Stromae qui s'appelle
idée.
La Solacitude. Alors, on y va, Nicolas.
Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas. Laisse-toi aller, pour un soir je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude.
Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant, un resto, un week-end, pff, c'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine, quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
De lassitude.
Le célibat me fait souffrir de solitude.
De solitude.
La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas.
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude.
Et voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission.
C'est vrai.
Merci beaucoup à vous toutes et vous tous d'avoir été avec nous. Donc on remercie Gabriel Lessard et on pense à la pièce de théâtre La Blessure qui est présentée à l'Espace Libre du 22 mars au 9 avril. Alors n'oubliez pas, allez-y, ça doit être super intéressant. Je vous en reparlerai après l'avoir vu d'ailleurs. Merci Mathieu Tessier.
Merci.
C'était super agréable de t'entendre faire un conte comme ça, j'aime ça. Je suis comme les enfants, je me suis pas assise par terre, je suis restée assise sur le siège, mais j'aurais eu envie d'être là et de t'écouter en raconter d'autres.
Parfait.
Donc continue comme
c'est
ça,
noté.
C'est super bien. Maintenant, on dit merci à notre technicien qui tout à l'heure s'endormait, tombait le nez sur le micro, mais ça c'était la faute à Mathieu.
Oui.
Donc merci Nicolas Wartmann pour la technique et puis pour les chansons. Et puis on vous souhaite une excellente soirée. Et on vous dit à demain pour une autre aventure. Ah, demain, c'est mercredi, on a... Oui, c'est la journée surprise. Soyez avec nous. À demain. Au revoir.